écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 4 mars 2024 et c'est l'épisode 256. Alors, c'était le Mobile World Congress à Barcelone, comme chaque année, hein, sauf quand il y a des Covid peut-être. On va vous partager quelques tendances du moment en matière de tech dans le domaine de la mobilité. On a aussi quelques infos sur l'intelligence artificielle, comme tout bon épisode de Tech Café qui se doit. Et puis, des infos du côté d'Apple qui a fait des annonces, là, c'est tout frais, qui se retrouve aussi avec des amendes pharaonique à payer. On va parler de tout ça. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je ne suis pas accompagné cette semaine de Guillaume Poggiaspala, mais j'ai le plaisir de retrouver Cassim Montia, journaliste chez Frandroid. Salut Cassim, comment vas-tu ?
Salut, ça va très bien, ça fait longtemps.
Merci.
C'est la première fois que je viens depuis que j'ai changé de nom.
Oui, dis donc, effectivement. C'est quelqu'un que vous n'avez jamais entendu sur Tech Café pour la première fois. Merci beaucoup de te joindre à moi. C'est très sympa. Et je suis d'autant plus à l'aise que, tu étais présent au Mobile World Congress. Tu étais présent aussi derrière ton ordi, là, durant ces quelques heures. Moi, tu vois, j'étais derrière Dune 2, la deuxième partie, là, au ciné. Incroyable. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film.
Ce sera ce week-end, a priori, pour moi.
Oh là là, mais il faut voir ce film. Alors, je fais une petite parenthèse pour dire que Guillaume Poggiaspala m'avait, entre parenthèses, informé sur l'univers de Dune que finalement je connais très mal et qui a à prendre un peu comme étant une allégorie de l'avenir quand on voit en ce moment qu'on voit l'intelligence artificielle qui débarque à grands pas, que peut-être on voit arriver la robotique qui pourrait s'incarner au travers d'entités autonomes dans le domaine de la robotique. Et qu'on voit que Dune, y a tout ce passé de Dune dans lequel il y aurait une guerre contre la robotique autonome. Bon voilà, tout ça est à mettre en parallèle, mais c'est vraiment captivant, c'est un film incroyable. J'ai vraiment adoré, mais je suis dispo, Cassim, pour continuer à parler de tech. Donc en tout cas, merci beaucoup de te joindre à nous. Et puis merci beaucoup à Xiri et Alvaro Mirandetti pour qui on déroule le tapis rouge pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été sur patreon.com/techcafé. Et merci beaucoup à vous qui nous écoutez de peut-être faire comme ces deux personnes. Si vous écoutez Tech Café régulièrement et que vous en avez la possibilité, vous pourrez contribuer parce que Tech Café est gratuit, mais vous pouvez financer l'émission et sa production en devenant un auditeur engagé, un auditeur VIP. Pour ça, rien de plus simple, je vous l'ai dit, patreon.com/techcafé, et vous vous abonnez au montant de votre choix, et en plus sans engagement, hein, donc si vous voulez le faire que quelques mois, c'est possible aussi. Vous profitez en échange d'un flux privé pour ajouter le podcast à n'importe quelle app de podcast afin d'écouter les épisodes sans la pub, et donc vous contribuez également à financer un podcast dont le contenu se veut, on l'espère, utile, de qualité, mis à votre disposition afin que vous puissiez en profiter durant des moments de disponibilité à l'audio. Vous les connaissez, les transports par exemple, le sport, le bricolage, la cuisine. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts en faisant la cuisine. Donc merci beaucoup par avance de l'envisager en vous rendant sur patreon.com/techcafé. Merci beaucoup aussi à celles et ceux qui auront le temps et l'opportunité de déposer un avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict ou quelques étoiles sur Spotify. L'enjeu, il est évident maintenant, hein, vous le savez, c'est quand les gens découvrent un épisode de Tech Café dans les apps de podcast, ils ont peut-être envie de savoir si le podcast est intéressant, reconnu par la communauté. Et en laissant un avis, vous alimentez cette image de qualité, comme l'a fait par exemple Batan, qui a déposé un avis depuis Apple Podcast Suisse. Il dit bonjour, donc très bon podcast d'information tech. J'aime bien quand les gens ils laissent un avis et disent bonjour au début. Je trouve ça trop mignon. Bonjour, très bon podcast d'information tech qui me sert au quotidien pour ma formation. Je vous écoute très, très régulièrement depuis la Suisse et je trouve que ces informations que vous donnez sont de très bonne qualité et d'un ton très positif. Merci beaucoup à toi, et puis rendez-vous aussi sur techcafé.fr pour déposer des commentaires sur les articles qui accompagnent l'apparition des épisodes et même sur le petit serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord. Boucler le tour de piste de l'introduction de cet épisode aussi, je me dois, mais vous l'avez remarqué, de vous dire que j'ai la voix un petit peu altérée parce que donc on enregistre en général le mardi soir. Mardi dernier, je sentais avoir un petit peu la gorge qui me grattait. Et alors depuis, ça a été l'hécatombe, nez qui coule, gorge qui gratte, pas bien. Ça va un tout petit peu mieux aujourd'hui. Donc tant mieux, on peut enregistrer un épisode de Tech Café sans que je souffre et sans que je sois en train de me moucher ou de couper le micro pour éternuer en permanence. Mais j'ai la voix un tout petit peu encore légèrement altérée. Vous m'en excuserez. Kassim, sans autre forme de procès, on va pouvoir se lancer dans nos news de cette semaine avec déjà le Mobile World Congress. Donc c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout abordé avec Guillaume Pogzaspala la semaine dernière et durant notamment la semaine dernière pour l'épisode précédent. Mais on a quelques éléments qui sont ressortis. Alors je dois quand même partager un petit peu mon sentiment. Et puis évidemment, il va falloir que je confronte ce sentiment à ton expérimentation en bonne et due forme, puisque tu as pu arpenter le salon du Mobile World Congress à Barcelone. Il y a quelques petites innovations, présentations qui ont été pas mal partagées par la presse et donc que j'ai sélectionnées, mais évidemment tout ça est mis sous le filtre du travail des journalistes qui ont déjà fait une partie du boulot. Et probablement que ce n'est pas exhaustif. Moi, vu de loin comme ça et en surveillant les news qui sont présentées, je ressens une petite frustration, une petite baisse de régime. On est très loin alors de l'actualité de la tech d'il y a de ça quelques années où on s'enthousiasmait des sorties des smartphones. Évidemment, ce n'est plus forcément le cas. Mais je dois dire qu'il y a vraiment très, très peu de tendances marquantes que j'ai vues être présentées dans ce MWC 2024. Évidemment, la 6G est déjà en route, mais ça, on s'y attendait. Il y a des innovations qui sont en cours autour de la 6G qui promet forcément d'aller plus vite, de gagner en latence, d'avoir peut-être plus d'interopérabilité. Alors, on n'a pas tous la 5G sur notre smartphone, donc on est en droit, mais comme à chaque itération de génération de connectivité mobile, de se dire que c'est une évolution logique, mais ça va sans doute pas être un big bang, en tout cas cette année 2024. On a des smartphones, on a le Xiaomi 14 Ultra qui a été présenté, bon, très bien. On a le Human, vous savez, le petit badge qui s'aimante à votre t-shirt qui se veut peut-être remplacer votre smartphone demain, mais finalement qui a été présenté comme étant un produit avec lequel qu'on pouvait voir, potentiellement toucher, et qui pouvait fonctionner sous nos yeux sur le salon, mais finalement pas de grande annonce derrière. Pareil, on a cette fameuse bague connectée de Samsung, la Galaxy Ring, qu'on voit apparaître dans les news et les rumeurs ces dernières semaines, mais sur lesquelles on n'a pas encore de vraie présentation. On a des indications qui montreraient que l'autonomie serait plutôt bonne et qu'il y aurait évidemment pas mal d'éléments autour de la captation de la santé. Bon, très bien. On a même, alors je dois dire, moi, des trucs, évidemment, tout ça est encore une fois pris sous le filtre de l'actualité tech traitée par les différents médias, mais on a même Xiaomi qui présente un lave-linge à double tambour qui m'a l'air certes très bien, mais je me demande d'une part quel est le rapport à la mobilité et par ailleurs où est véritablement le côté marquant. Bon, après, c'est très très bien quand l'industrie continue à évoluer. Finalement, il y a deux grands absents, mais tu vas peut-être me contredire, Kassim. D'une part, l'intelligence artificielle dont on bouffe en permanence, je dirais même pas chaque semaine, mais chaque jour, peut-être pour notre plus grand plaisir, mais qu'on a vu finalement assez peu présent dans ce Mobile World Congress, à mon sens, et toujours pas, mais ça c'est peut-être mon côté un petit peu extrême sur le sujet qui va le souligner, toujours pas de grandes annonces marquantes autour du changement climatique, de la consommation de l'énergie, qui me semble être une tendance énorme et qui souffre de l'inertie de l'innovation et qu'on ne voit toujours pas arriver au quotidien. Il y a bien effectivement des marques qui se raccrochent à ça et qui nous disent qu'ils gagnent en économie d'énergie sur la production de leurs appareils, etc. Mais pour mieux balancer de l'intelligence artificielle parfois dedans. Voilà, c'était un petit peu mon sentiment quand j'essayais de couvrir l'exhaustivité du Mobile World Congress. Kassim, est-ce que tu partages un peu ce sentiment, toi qui allais là-bas, ou est-ce que tu vas me contredire et me compléter?
Non, je partage forcément un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on n'est plus du tout à l'âge d'or de la tech, de l'innovation du smartphone. Et donc, à ce moment où chaque année, le Mobile Congress était devenu le salon le plus important de l'année, déjà, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, je pense. Et puis surtout, oui, on a pu ces révolutions d'année en année ou de mois en mois, comme à une époque. On en est vraiment loin. Et donc, on arrive à un Mobile World Congress qui, alors, regagne vraiment des couleurs par rapport à... faut rappeler qu'on sort aussi du Covid il y a quelques années. Donc là, c'est la deuxième ou troisième itération du salon en physique depuis le Covid. Et pour le coup, il a regagné des couleurs en termes de présence, de taille, etc. On est revenu à quelque chose de pré-Covid, quoi, pour moi, en termes vraiment d'influence, de voilà.
Mais ça se sent pas vu de loin, justement. Tu dis justement. Ça parce que tu y as été ou parce que
parce que j'y ai été et que je vois par exemple la salle de presse qui l'année dernière encore était une simple petite pièce qui pouvait abriter quoi une quarantaine de personnes grand max. Et qui là est redevenu une sorte de hall de gare entier dédié à la presse, quoi.
Fréquenté, du coup, c'est pas un hall de gare vide.
Oui, ouais. Exactement, oui, tout à fait.
Un hall de gare parisien à l'heure de pointe. Okay.
Exactement. Et en termes de je veux dire de superficie, enfin le truc a pris x10, quoi. Okay. Mais donc je pense non, il y a vraiment un regain en termes de force du truc. En revanche, par contre, je suis d'accord sur les tendances, c'est-à-dire qu'en fait, la tech se cherche. La tech est au croisement des chemins sur plusieurs sujets. Et donc, il n'y a pas une énorme tendance sur laquelle tout le monde s'est aligné ou de grosses annonces. D'abord, il y a des acteurs maintenant qui sont absents du Mobile Congress aujourd'hui. Alors, tu as mentionné la Galaxy Ring, mais globalement, Samsung, historiquement, c'est là qu'ils annonçaient leur Galaxy S. Cette fois, ils l'ont annoncé en janvier. Et même les autres acteurs, alors il y a des gros acteurs chinois qui jouent encore le jeu, il y a du Lenovo Motorola qui va présenter des petits objets un peu vitrine technologique, il y a du Xiaomi qui va présenter sa voiture électrique au moment où on apprend qu'Apple abandonne la sienne et qui du coup se retrouve un petit peu décontenancé de « bah mince, on était en train de concevoir une voiture pour pouvoir répondre à celle d'Apple et finalement Apple la lance pas, alors du coup on sait plus ce qu'on fait avec notre voiture ».
C'est vrai, t'as raison.
Il y a d'autres fabricants chinois. Il y a aussi des fabricants chinois qui ont disparu, comme Huawei qui a plus autant de choses à présenter aux gens qu'auparavant, ou un Oppo qui est sorti en rapidité, en urgence l'année dernière à cause d'un différend juridique avec Nokia, et qui finalement là était présent au Mobile Congress pour essayer de signer avec des partenaires, avec des opérateurs pour marquer son retour. Ils ont annoncé leur retour. Publiquement pour le coup lors du salon le retour en Europe sur les marchés où ils étaient présents auparavant. Oppo reproposera des produits sous quel calendrier, sous quelle forme, etc., c'est à préciser, mais voilà, ils étaient là aussi pour faire cette annonce là mais toujours est-il que du coup il n'y a pas des grosses tendances qui se dessinent. Les deux qu'on peut attendre, c'est évidemment effectivement la question de l'IA. Alors c'est là où je serais pas trop d'accord avec toi, c'est que l'IA pour le coup il y en avait partout. Okay. Sur tous les stands il fallait absolument parler d'IA ou parler de robotique le fameux AI Pins par exemple effectivement qui était présent, mais le problème en fait c'est que le sujet de l'IA les marques n'arrivent pas à prendre ce wagon là parce qu'en fait le sujet de l'IA il a été réglé aussi vite que l'IA est arrivée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux outils d'IA qui fonctionnent. Il y a Midjourney d'un côté pour l'IA générative d'image, et il y a surtout ChatGPT. Les gens dans la rue, n'importe qui, l'IA, c'est ChatGPT. Et ChatGPT, en fait, t'as pas besoin d'un appareil, t'as pas besoin d'un nouveau PC pour utiliser ChatGPT. ChatGPT, il fonctionne sur le web et il fonctionne depuis n'importe quel appareil. Et ça, c'est vraiment le truc qui embête, pour pas dire un mot plus vulgaire, les marques. C'est-à-dire que c'est horrible. Rends-toi compte, une technologie que tu ne peux pas vendre aux gens qu'ils ont déjà sur leur appareil actuel, ils n'ont pas besoin de faire un renouvellement.
Et qui te coûte cher en plus.
Et qui coûte cher, oui, et qui coûte cher à la tech en termes de déploiement et en termes de data center et tout. Mais voilà, tu ne peux pas leur vendre un nouvel appareil, un nouveau PC. Microsoft, Qualcomm et tout ça, ils essayent de te vendre l'ère de l'AI PC qui serait sur le point d'arriver. Ça n'a aucun sens. Alors oui, alors là, je troll un peu. Le sens derrière, c'est l'idée de peut-être arriver à de l'IA générative qui serait on-device, comme ce que font les Galaxy S24. Ouais. Mais déjà, on n'en est pas là. Et même les produits qui le font, en réalité, la qualité des réponses n'est pas du tout au niveau de ce que propose la solution cloud pour l'instant. Donc, on n'en est pas du tout là. Et on est vraiment dans des marques qui essayent de courir après un truc qui est arrivé il y a 2 ans en plus, quoi. Donc, il y a le calendrier de design des produits matériels qui est beaucoup trop long par rapport à une nouveauté logicielle qui a surpris tout le monde par la rapidité à laquelle elle a été adoptée par le grand public et qui était arrivée fin 2022. Quoi. Donc oui, et l'autre... Alors ça, c'est la première tendance. L'autre tendance, c'est évidemment la question de l'informatique spatiale.
Ah oui, bien sûr.
Qui n'est pas du tout présente parce que les grands acteurs de cette industrie... Alors, j'ai fait exprès de dire informatique spatiale, mais en réalité, c'est évidemment la réalité virtuelle ou mixte dont je parle. Et y a Apple et le Vision Pro d'un côté, mais Apple est évidemment pas au Mobile Congress. Et l'autre côté, c'est les deux autres acteurs, on va dire de trois autres acteurs. Il y a Meta qui est présent au Mobile Congress historiquement. Et il y a Google qui prépare la réponse avec Samsung, mais ils n'avaient rien à annoncer à ce salon-là. Donc ce sera sans doute à la Google I/O, mais pour l'instant, il n'y a rien à annoncer de ce côté-là. Et le dernier acteur que moi j'ai pu rencontrer, c'est HTC avec HTC Vive, qu'on pourrait facilement balayer d'un revers de main en disant que bon, c'est mignon, mais HTC, on s'en fiche un peu. En réalité, j'avoue que en sortie de visite, j'ai pu les interroger, j'ai pu pas mal voir ce qu'ils proposaient. C'est, ils ont un point de vue qui est assez intéressant, qui est de... Alors, qui ne va pas parler du coup à nous, mais qui est... ils sont complètement dans l'industriel et, dans le, et sur un marché que l'on sait très bien qu'Apple ne pourra pas viser. Donc, la santé, la sécurité, okay, la défense, tout ça, c'est, on sait très bien que c'est des trucs que Apple... avec leur solution pas du tout sur mesure. Apple, soit t'es conforme au produit, soit t'es pas conforme, mais ils vont pas le changer pour tes beaux yeux. Et ça, ça marche pas pour plein de secteurs industriels qui ont besoin que tu fasses des choses sur mesure pour eux. Et pour le coup, HTC a plutôt ce talent-là de vouloir voilà, chaque, un casque par, par entreprise presque, on va dire, ou une solution logicielle qui va être capable de s'adapter aux besoins de l'entreprise, quoi. Et ça, okay, ça c'est un truc que je pense que du coup c'est assez malin de leur part. Alors ça nous parle pas du tout parce que c'est du B2B et que ça fait pas rêver, mais je pense que c'est plutôt malin de leur part pour le coup d'essayer de s'emparer de ce sujet-là et de pas vouloir être le prochain, justement de pas chercher à être la plateforme grand public face à Apple, quoi, on va dire.
Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai que l'industrie, enfin les industries que tu cites, elles sont déjà effectivement en train d'utiliser pour partie d'ailleurs la réalité augmentée sur les secteurs. Mais il y a de ça quelques années, on en parlait. Il y a de ça un moment. Oui, oui, je peux comprendre qu'effectivement les réponses sont pas exactement les mêmes que pour le grand public. Après, moi, ce que je trouve aussi assez symptomatique, et là aussi, je suis très curieux d'avoir ton retour, c'est quelques produits sur lesquels on peut pas s'empêcher de se gratter la tête. Et là, on se demande s'ils sont très visibles parce qu'il n'y a que ça à se mettre sous la dent, dit vulgairement, ou est-ce que c'est symptomatique, encore une fois, de ce caractère d'innovation qu'on décrit ensemble. Je donne deux exemples. Le smartphone qu'on a tous vu, hein, je pense, quand on suit un peu la tech de Motorola qui s'enroule autour de votre poignet. Alors en plus, il faut un bracelet aimanté, si j'ai bien compris. Et là, je ne peux pas m'empêcher de me dire, OK, c'est une belle prouesse technologique, c'est joli, c'est remarquable, mais à quoi ça sert ? Dans le même registre, il y a, mais là aussi, vous l'avez relayé, hein, mais le PC Lenovo avec son écran transparent, où on sent que les équipes de Lenovo veulent absolument justifier l'apport d'un écran transparent avec des justifications qui, je pense, vraiment ne convainquent personne. Moi, je voudrais savoir si c'est symptomatique du fait qu'il y a un traitement par la presse et que quand on n'est pas présent sur place, on ne remarque que ça parce que c'est ce qui est très visible sur des articles. Ou est-ce que quand même, ce n'est pas un peu symptomatique de ce qu'on vient de dire sur cette espèce de frein ou en tout cas de l'industrie qui se cherche dans la tech aujourd'hui ?
Un peu des deux. Alors, c'est-à-dire que alors, Lenovo est coutumier du fait. Alors, tu as cité Motorola et Lenovo. En fait, c'est le même groupe derrière. Et ils sont,
oui,
et
les deux marques sont les mêmes. Ouais.
Et du coup, ils sont totalement coutumiers du fait. L'année dernière, c'était le smartphone à écran étirable et le PC portable à écran étirable. Et ils étaient exactement au même endroit avec exactement la même vitrine. Et dans les deux cas, je pense que ce n'est pas des produits qui ont vocation à être commercialisés, quoi qu'on pourrait en discuter. Mais en gros, c'est clairement... En tout cas, c'est des projets en développement. C'est pas du tout des projets prêts à être commercialisés là tout de suite. Et, okay, et donc, c'est vraiment totalement fait pour attirer le regard, attirer la couverture de la presse et même pas se poser de la question de l'utilité, mais juste effectivement la prouesse technologique, l'effet waouh, le côté futur et le côté que, bah, très honnêtement, qui nous attire aussi en tant que journaliste parce que tu as envie... quand tu couvres un salon, il y a deux. Enfin, moi, je trouve qu'il y a deux intérêts à couvrir un salon. Il y a d'une part, effectivement, identifier les grandes tendances, parler des grosses nouveautés qui vont vraiment changer concrètement la vie des gens et voilà le concret qu'on va dire. Et l'autre chose, l'autre élément, c'est d'aller trouver, très honnêtement, les gadgets les plus cool, soit qui parce qu'ils sont bluffants technologiquement parlant, soit parce que c'est une idée qui sort un peu de l'ordinaire et que tu d'habitude tu ne relairais pas et que tu peux approcher le produit, tu peux poser des questions au créateur, etc. C'est les deux choses, voilà, très honnêtement, qui sont intéressantes en salon. Et pour moi, c'est évident quand tu proposes un PC à écran transparent que tu vas être relayé par la presse en long et en large parce que bah, c'est et bluffant, oui, à voir. Ça marche. On est loin du, en plus du côté technologiquement parlant, ça marche vraiment, quoi. C'est assez bluffant à voir en vrai. T'as vraiment l'impression d'être de voir un truc de SF. Après, à l'usage, c'est nul. C'est évidemment évident que ça ne sert à rien. En tout cas, tel qu'implémenté comme ça. Il y a Nicolas Louche qui m'avait un peu convaincu au CES quand il avait vu des, pour le coup, des écrans transparents, mais pour des téléviseurs, etc. Où c'était,
je peux être plus facilement convaincu par ça. C'était Léger, normalement, notamment, hein, qui donnait un côté un peu simili-aquarium. Ça pouvait vraiment se fondre dans son intérieur.
Et puis, pour du B2B, pour des vitrines, et notamment dans des marques, dans des bijouteries ou des trucs comme ça, où tu verrais le prix, par exemple, s'afficher sur la vitre qui protège le bijou derrière lequel il est. Enfin, tu vois, ou des habillages un peu artistiques, on va dire, autour d'un produit haut de gamme, de luxe. Là, tu peux voir l'utilité sur un PC du quotidien. Il y a une très très belle BD du dessinateur Boulet date d'il y a une bonne quinzaine d'années, qui se moque des écrans transparents, justement, et qui est toujours très vrai quand on voit ce genre de produit. C'est que personne n'a envie de voir. Le but des gens en général, c'est de utiliser des filtres pour que les gens qu'on ne voit pas ce que tu regardes par-dessus ton épaule, ce que tu es en train de regarder dans le train ou quoi. Imaginez un écran transparent, quoi. Évidemment, c'est plus le côté waouh qu'autre chose. Et évidemment que ça ressort plus, ça arrive à plus tenir en surface quand il n'y a pas à côté un Galaxy S24, par exemple, qui est annoncé et qui prend toute la couverture, quoi.
Ouais, bien sûr. Alors, sur les produits peut-être un tout petit peu plus pertinents pour commencer à clore ce sujet du Mobile World Congress, mais peut-être aussi que je n'ai pas tout relevé et que tu pourras compléter parce que, évidemment, je n'y étais pas et que je fais ça sous le filtre des sites d'actu. Alors, au-delà de tout ça, il y a le dernier né de chez Xiaomi qui m'a l'air en vrai plutôt hyper équilibré, hyper pertinent. Moi, j'aime bien leur approche d'avoir la poignée avec l'appareil photo. En fait, a priori, ça existait avant, mais là, il est vendu directement avec la poignée qui te permet vraiment d'avoir une prise en main pour la photo qui peut être assez cool. Et quand on travaille dans le milieu un peu pro sur la captation d'images, ben, on a besoin de ce type de choses. Pourquoi pas ? En plus, avec la caution des objectifs Leica, moi, ça me semblait en vrai plutôt pas mal. Mais un autre produit qui me semblait finalement très malin, et j'ai l'impression que ça a été le cas de pas mal de personnes qui l'ont vu et qui l'ont relayé, c'est la console Pocket Go de Tecno, qui est une marque qu'on ne connaît pas, mais qui en fait vend beaucoup. Et en tout cas, le Pocket Go, c'est quoi ? On aurait presque pu le mettre dans la rubrique jeux vidéo en fin d'épisode. Mais imaginez, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, un Steam Deck ou assimilé, sur lequel vous n'avez pas d'écran, mais à la place de l'écran, on vous fournit des lunettes de réalité augmentée et qui vous permettent en gros de déporter l'écran, comme on pouvait l'imaginer, en portant des lunettes. Avec des capacités a priori plutôt convaincantes, hein, 1 Tera de mémoire, 16 Go de RAM, il y a la batterie de 50 Wh, un Ryzen 7 comme processeur. Bon bref, en gros, on a des capacités qui peuvent être... pourquoi pas sympathique, à la hauteur de ce qu'on peut faire pour ce type de PC gamer portable maintenant. Et je trouve que le fait de remplacer un écran par des lunettes, alors c'est un pari un peu osé, je ne sais pas si la durée de vie du produit justifiera, je ne sais pas à quel prix on pourra retrouver ce genre de choses, mais je trouve ça plutôt malin. Alors déjà, je veux bien ton avis sur ce produit, je ne sais pas si tu l'as vu, si tu as eu l'occasion de te faire une idée un peu plus approfondie que moi, cet avis un peu en surface. Et surtout, je ne sais pas si tu as d'autres produits ou d'autres innovations, d'autres propositions qui ont été présentées au Mobile World Congress 2024 que tu voudrais souligner pour montrer quand même qu'il y a des choses cool quand même.
Sur le PC console à lunettes, alors moi je ne l'ai pas vu, malheureusement je voulais le voir le dernier jour, mais j'ai pas pu parce que je me suis blessé au salon, mais ça c'est un autre sujet.
Ah oui, alors j'ai vu des images qui montraient que tu t'es retrouvé dans les hôpitaux de Barcelone.
Oui, bon, c'est...
J'en déduis que c'était pas trop grave quand même.
Non, ça allait, tout va bien. Voilà, on avait connu meilleur fin de salon. J'ai pas pu le voir. Mais par contre, mon ami Titouan, alors qui travaille pour 01net, a pu le voir et en a fait un article aussi. Et il m'en parlait, c'est marrant, il m'en a parlé exactement comme tu l'as fait, c'est-à-dire c'est vraiment un Steam Deck sans écran, effectivement. Tout est dans la manette en termes d'intelligence. Et l'écran est déporté. Alors, soit d'ailleurs, vous branchez ce que vous pouvez brancher votre propre écran si vous avez envie, en réalité.
Effectivement.
C'est une sortie vidéo, quoi. Soit vous branchez donc les lunettes prévues à cet effet et qui vont vous afficher un écran virtuel de 200 pouces, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est évidemment quelque chose d'énorme. Alors la qualité apparemment vidéo est pas forcément optimale, hein, on l'imagine sur ce genre de produit, sinon le prix exploserait. Mais c'est déjà c'est vraiment une bonne idée. Il en est ressorti, c'est un utilisateur de Steam Deck, il en est ressorti plutôt convaincu.
Okay.
Donc je trouve effectivement que l'idée se défend. Et que c'est malin d'avoir, en fait, d'essayer de réfléchir à un Steam Deck sans écran, en fait, et de voir un peu ce qu'on peut en faire. Il faut savoir que Tecno, c'est une marque qu'on connaît peu en France, mais donc c'est une marque chinoise, mais c'est le cinquième vendeur de smartphones dans le monde.
C'est fou, hein. Ouais, c'est fou,
notamment ça. Grâce au marché africain. Ouais. C'est pour ça que nous, en tout cas en Europe, pour le moment, on le connaît pas trop, mais il est présent à l'IFA, il est présent au Mobile World Congress, donc et petit à petit, on risque d'en entendre parler. Donc surveiller, c'est Tecno, la marque.
T-E-C-N-O. Et au passage, je parle de la durée de vie, de la réparabilité, du fait de maintenir ce type d'appareil. De fait, en y réfléchissant et en parlant avec toi, je me demande si elle n'est même pas meilleure qu'un produit type Steam Deck, parce qu'en fait, tu peux remplacer justement les lunettes par autre chose. Finalement, le fait de déporter l'affichage et de ne pas avoir d'affichage intégré, j'arrive à me demander si ça ne peut pas être un plus.
Puis en matière d'autonomie, potentiellement, je me demande à quelle mesure les lunettes consomment moins que l'écran, parce que c'est des verres de quelques pouces, en réalité. C'est des verres, des écrans micro-LED, micro-OLED, pardon. Ouais. À voir.
Trop bien.
Et alors tu me demandais ce que je retenais. J'avoue que je serais bien incapable de te souligner vraiment un produit phare, parce que il y a les fleurons, évidemment. Oui, ok, il y a le fleuron de Xiaomi, il y a le fleuron de Honor, etc., qui sont très cool, mais bon, c'est juste les nouveaux smartphones chinois meilleurs que ceux de l'année dernière. Moi, je suis par contre un peu plus client que tu l'as été, j'ai l'impression, du Motorola à mettre autour du poignet. Alors oui, il y a cette question de l'aimant, en fait, que tu es obligé de mettre de l'autre côté pour qu'il se clipse correctement. T'es obligé de porter un bracelet, quoi, on va dire, quand tu portes pas ton smartphone. Mais je trouve, moi, que c'est plutôt un usage malin. C'est-à-dire qu'on a vraiment un problème aujourd'hui avec la taille de nos smartphones. On voit que le pliant commence à être un début de réponse pour réussir à réduire tout ça, notamment avec les formats flip qui sont extrêmement à la mode.
C'est vrai.
Et moi, honnêtement, moi qui ne suis pas porteur de montre, je trouve, plutôt que de rentrer mon téléphone dans la poche, me le clipper, en fait, sur mon poignet, moi, ce serait très, très bien, quoi. Alors, évidemment, peut-être le produit n'est pas encore au niveau de finition qu'on attend. Il y a encore des petits soucis, mais c'est pas la première fois qu'il le présente. Il y a eu beaucoup d'améliorations depuis la dernière fois qu'ils l'ont présenté. Donc on en approche, quoi. Et donc on y arrive. Et je trouve l'idée plutôt intéressante. Et je pense aussi que, en termes d'esthétique, il y a un truc à aller chercher. Les smartphones pliants en format flip ont pas mal la cote, alors notamment le marketing est vachement orienté du côté des femmes. Et donc peut-être il y a un truc aussi à aller chercher du côté, enfin, comme un peu comme accessoire de mode finalement aussi du smartphone, quoi. Voilà.
Ouais, c'est vrai, je reconnais que c'est assez convaincant, et moi je pourrais très très vite me séduire. C'est peut-être mon côté féminin pour rebondir sur ce que tu dis, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le format du flip, et le fait d'avoir un produit peut-être que tu tiens mieux en main, qui est plus compact, qui va moins glisser des mains pour une surface d'écran équivalente, why not, pourquoi pas. Ok. Écoute, merci beaucoup Kassim d'avoir cette caution du journalisme présent sur le MWC 2024. Oui, je rebondissais, un dernier mot, il y a toujours à chaque fois une accroche, une baseline pour associer les salons. Là, pour celui-ci en 2024, c'est le futur avant tout. Et je me disais, mais comment leur est venu ce slogan aussi creux qui ressemble à une accroche, tu sais, d'un parti politique qui se cherche vraiment et qui veut tout dire et rien dire. Et en fait, je trouve que c'était révélateur. Il n'y a pas une crise au sens financier du terme dans le monde de la tech, mais je crois que vraiment l'innovation se pose des questions. Il y a d'un côté des bouleversements comme on n'en a jamais vu avec l'IA, et à côté de ça, bah, des vieilles marmites qui continuent à évoluer à la vitesse d'un escargot comme les smartphones. C'est peut-être comme ça qu'il faut regarder le côté intéressant de la chose. On peut, Guillaume, alors je te propose qu'on parle, Guillaume, décidément j'ai vraiment l'habitude de dire Guillaume, j'espère que ça, j'ai tout à l'heure j'ai glissé, j'ai dit gue au début en intro, je vais me reprendre, je suis tellement habitué à échanger avec Guillaume, et tu fais une illusion parfaite avec ton regard acéré. Non, je te propose, Kassim, qu'on parle plutôt d'Apple, et on parlera un petit peu d'intelligence artificielle juste après. Bon, d'une part parce que Apple, ça fait toujours vendre, et c'est important de dire qu'on parle d'Apple dans un podcast comme ça fait des écoutes, mais aussi parce que c'est super intéressant, Il y a plusieurs sujets. Il y a des aspects légaux et des aspects innovation sortie. Peut-être qu'on peut commencer quand même par les annonces, parce que c'est tout frais et que je suis impatient que tu puisses m'en dire plus. Non,
tu vas jouer le jeu d'Apple, attention.
Je vais le dire. Tu sais quoi ? Je te prends au mot et on repart sur le conducteur tel qu'il était prévu pour que tu puisses me souligner ça et que je ne joue pas le jeu d'Apple. Très bien, tu m'as convaincu. On va d'abord reparler de cette affaire des Progressive Web Apps. Je vous fais un résumé très rapide parce qu'on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Mais vous savez, les PWA, les Progressive Web Apps, c'est en gros des versions d'applications, mais qui sont très sites web mis à votre disposition sur votre smartphone de manière très immersive, avec voilà, l'écran qui s'affiche au complet et qui surtout, d'un point de vue technique, ont des comportements plus proches des applications que ne le sont les sites web. Ça n'existe pas que sur iOS, hein, d'ailleurs. Mais sur iOS, au fil des sorties des différentes versions en bêta, donc en cours de développement de la version iOS 17.4, celle qui va arriver prochainement et qui se met en conformité sur plusieurs aspects avec les directives européennes, eh ben on avait vu disparaître les Progressive Web Apps. On avait bien compris qu'il y avait un souci et Apple l'a confirmé derrière en disant que il n'allait pas pouvoir mettre à disposition les PWA parce que en se mettant en conformité et compte tenu de la place que prenait Safari en concurrence avec les autres navigateurs, compte tenu de l'enjeu de sécurité qu'a Apple sur la mise à disposition des services sur l'iPhone, il ne pouvait plus assumer le fait de mettre en place les PWA pour les versions européennes d'iOS. Patatras, c'était un gros problème qui a commencé à soulever des regards attentifs, notamment de la part de l'Union européenne, hein, qui a dit qu'ils allaient enquêter sur le sujet, en tout cas qu'ils allaient possiblement ouvrir une enquête et s'intéresser à ce sujet. Et finalement, Apple est revenu en arrière et ils vont mettre à disposition les PWA. Alors, je ne sais pas si c'est directement dans la version 17.4 qui va sortir là très prochainement ou dans une version mise à jour peu de temps après. Je pense que ça va arriver en même temps. Ils vont réintégrer les PWA, donc plus de problème. Je pense qu'on sent le poids du régulateur qui arrive alors, de tous les côtés et on sent qu'il y a un petit mouvement de panique. Quelques indicateurs qui montrent qu'il y a un mouvement de panique à ce niveau-là. Donc, il y a déjà, d'une part, l'Union européenne qui annonçait possiblement enquêter suite à la disparition de ces PWA sur iOS. Mais on a aussi 34 entreprises, dont évidemment vous connaissez hein, les entreprises qui sont au cœur de la manifestation, plutôt en première ligne de la manifestation sur ce genre de sujet comme Spotify et Epic, se plaignent dans une lettre ouverte, je crois, et qui a été adressée à l'Union européenne également pour montrer à quel point ils sont inquiets de la tournure de la part d'Apple sur la mise en conformité, notamment concernant le DMA, le Digital Market Act. Et alors, il y a un document. Alors pour moi, c'est vraiment un effet quelque part stressant, mais je pense que je ne suis pas assez aguerri dans les dispositifs de lobbying pour vraiment mesurer l'enjeu. Il y a un document de combien de plusieurs dizaines de pages qu'Apple a sorti, qui est en fait, je l'ai parcouru, je ne l'ai pas lu en intégralité, mais qui parle plein d'aspects et vraiment lunaire. On a vraiment l'impression que c'est un document adressé à des responsables politiques, mais qui est envoyé, tu sais, en one-to-one et qui n'est pas diffusé habituellement en public. Et là, ils se sont dit, non, mais voilà, envoyez ça en public, envoyez ça sur Internet, prenez la parole massivement. Et alors, il y a dans ce document des témoignages, je ne comprends pas comment ça a pu arriver, mais des témoignages de personnes qui, je pense, assez, c'est crédible, hein, ce n'est pas inventé ces témoignages, mais c'est des extraits de mails qui ont été envoyés à Tim Cook. De la part de personnes qui montrent, alors non seulement qu'ils ne sont pas à l'aise avec ce qui se passe au niveau de la réglementation européenne, mais qui sont même inquiets. Voilà, ils sont même inquiets. Ils ne vont pas installer hein, des applications qui ne sont pas mises à disposition sur l'App Store parce que vraiment, ils craignent pour la sécurité de leur appareil. Alors, encore une fois, je ne remets pas en question le fait qu'il y ait pu y avoir ces emails. Tout porte à croire que c'est des vrais emails. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer qu'ils sont représentatifs d'une part de l'ensemble de l'opinion ? Ils ne disent pas hein, que ces mails sont représentatifs de l'opinion des consommateurs en général, mais c'est quand même fou d'avoir cette espèce de sélection de quelques messages comme ça qui laissent imaginer que les gens seraient massivement inquiets et qu'ils auraient massivement peur de ces évolutions. Peut-être qu'ils jouent sur une forme de flou. Coup de tonnerre, évidemment, avec une amende qui a été présentée, c'était quand ? C'était aujourd'hui. de près de 2 milliards d'euros concernant la gestion par Apple de la musique. Alors, c'est Spotify hein, qui est derrière, évidemment, cette plainte. Je crois que ça date depuis 2019. Une amende monstrueuse quand vous devez sortir quand même votre carnet de chèques, même si vous êtes Apple hein, et que vous avez beaucoup d'argent, de 2 milliards d'euros, 1,8 milliard d'euros pour être exact, au sujet d'une problématique légale. Je pense que ça peut être un peu embêtant, à minima. On est dans une situation où on sent quand même une forme de mouvement de panique, j'ai l'impression, de la part d'Apple au sujet des régulateurs. Et ça donne quand même l'impression que ça porte ses fruits, quoi. Après, pour le meilleur et pour le pire, peut-être, mais que ça porte ses fruits. Cassim, est-ce que je me trompe en disant que quand même, là, ils affichent, tu vois, ils font poker face dans les relations publiques, dans la presse. Probablement que dans la WWDC, ils vont écarter ces problèmes d'un revers de main, mais qu'ils vont en même temps montrer qu'il y a des vrais risques en matière de sécurité pour les utilisateurs, mais qu'il y a quand même un peu d'angoisse côté Apple.
Moi, j'avais commenté le fait que, par exemple, le vouloir retirer les PWA en sous prétexte d'un problème de sécurité, alors que c'est géré parfaitement partout sur toutes les autres plateformes du monde entier sans qu'il y ait le moindre problème de sécurité, c'était un terrible aveu de faiblesse de la part d'Apple. Ça montrait qu'Apple n'était pas du tout maître de la situation et n'avait pas confiance dans ses équipes. Dire que iOS ne pourrait pas être capable de proposer une gestion sécurisée des PWA, c'est dire qu'Apple n'est pas aussi capable que Google et Microsoft dans le développement d'OS. Hein. Et à ce moment-là, il y a peut-être des ingénieurs, peut-être il faudrait qu'ils aillent voir chez Microsoft et Google s'ils ont peut-être des conseils d'implémentation. Voilà.
C'est mot pour mot, je crois, ce que Guillaume Poggiaspala a dit il y a deux semaines. Donc tu vois, je fais bien de me tromper en m'adressant à toi, en me trompant de prénom.
C'est toujours ça qui est un peu ridicule avec les réponses d'Apple. Et là, effectivement, il y a aussi le... Parce qu'en fait, Apple est dans une situation un peu compliquée où à la fois, je veux bien leur prêter, le fait de proposer un écosystème, de proposer une plateforme, etc., et de vouloir faire de l'argent avec en tant qu'entreprise privée, etc., et donc de faire tout ce qu'ils peuvent en termes de lobbying pour qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent faire sur leur propre plateforme. Là où je trouve que Apple va trop loin, c'est après, des fois, quand ils vont dans le... où ils vont vraiment dans le service minimum au niveau du... de la conformité à la réglementation, où ils jouent aux imbéciles, en fait. Ils jouent aux imbéciles avec la décision des juges, ils jouent aux imbéciles avec la loi. Et ça, pour moi, c'est un jeu assez dangereux de leur part. Je trouve que, par exemple, la façon dont Microsoft gère le politique est beaucoup plus intelligente, c'est-à-dire que Microsoft est toujours...
ils ont plus d'expérience.
Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont été chaudés, craint l'eau froide. Ils ont complètement perdu un certain nombre de procès au début des années 2000. Et depuis, Microsoft, c'est le meilleur ami des régulateurs. À chaque fois, ils sont les premiers à intégrer la réglementation, même quand elle n'est pas obligatoire, etc., pour montrer qu'ils sont les bons élèves de la classe. Et ce qui leur permet après, quand ils font un rachat à 80 milliards de dollars, d'obtenir validation auprès de l'Union européenne sans trop de problèmes.
Effectivement. Donc, il y a peut-être juste Teams. Parfois, je me dis, il ne faudrait pas qu'ils fassent trop de bêtises avec la manière dont ils...
Oui. Et ce n'est pas pour dire que Microsoft, c'est des gentils. C'est juste qu'il y a une stratégie politique qui est différente et qu'Apple n'est pas
mieux.
La même. Et pour moi, Apple, dans sa façon un peu casse-cou de gérer les trucs, en fait, Apple ne réalise peut-être pas encore vraiment bien son côté monopolistique et le fait que c'est plus la plateforme minoritaire qu'il l'a toujours été. Et c'est ça, je pense, qui peut un peu jouer des sales tours à Apple.
Je pense qu'il le réalise très bien, mais qu'évidemment, la stratégie sur le plan juridique vise à montrer que non, ce n'est pas le cas. Bon, hein.
Mais en tout cas, ils ont une stratégie qui fonctionnait du temps où ils étaient faibles. Et je pense qu'elle fonctionnera de moins en moins à mesure qu'ils gagnent en force. Donc voilà. Et donc, ils ont cette amende de 1,8 milliard d'euros en Europe, là, concernant Spotify. Tu parlais de la réponse de ce document européen où il y a les fameux mails adressés à Tim Cook où t'as l'impression que c'est vraiment
quoi.
C'est écrit comme les lettres envoyées au président nord-coréen pour dire à quel point c'est un leader d'exception et à quel point l'avenir est radieux avec lui, quoi.
Oh, la comparaison est difficile. Je comprends ce que tu veux dire.
Oh là là, monsieur Cook, vraiment, quel leader vous êtes. Vous êtes vraiment le meilleur président qu'Apple ait pu connaître. Je parle vraiment en toute objectivité. Signé Henri C. Vraiment, c'est un peu les avis vus à la télé, 5 étoiles sur 5. Depuis, ma vie a changé.
Oh, finalement. Mettez un avis sur Apple Podcasts concernant Tech Café pour dire à quel point le podcast a changé votre vie. Si
et donc là, il y a eu la réponse. Pareil, il y a un communiqué de presse qui est assez lunaire de la part d'Apple sur la décision de l'Union européenne. Où ils expliquent en gros que tout ça, c'est à cause des mensonges de Spotify, qui est une sorte d'ogre géant qui en veut toujours plus, qui ne paye rien à Apple pour être sur l'iPhone, mais ça ne lui suffit pas. Il en veut en plus, il veut de l'argent, toujours plus d'argent, Spotify, et qu'il devrait remercier Apple de lui mettre à disposition les nombreux API et frameworks de l'écosystème iPhone, dont, je cite, l'accès au Bluetooth, qui est comme l'un des avantages de la plateforme iOS d'après Apple. Enfin, c'est. Et en même temps, enfin, évidemment, je me moque beaucoup d'Apple dans la réponse, mais Apple marque aussi un point dans le fait que oui, Spotify évidemment c'est le numéro un du milieu de la musique en ligne et c'est un acteur européen. Donc, quand l'Union européenne prend cette décision, évidemment, il y a un côté protectionnisme.
Ah, vous avez vu le protectionnisme dont fait preuve l'Europe avec cette réglementation qui privilégie ces vulgaires méchants de Spotify. Tout voilà. Ça parce que quoi ? Parce qu'ils sont européens.
Exactement. Non, mais du coup, évidemment, on peut leur prêter au moins ce point-là. Oui, évidemment que l'Union européenne, quand elle prend ces décisions-là, voilà. Mais bon, après, c'est aussi le jeu politique. Et alors certes, 3 milliards là, et quelques 2 milliards de dollars, c'est 2 milliards d'euros, pardon, c'est beaucoup. Dit comme ça, c'est beaucoup pour toi et c'est beaucoup pour moi. Mais pour Apple, c'est 5% de leurs bénéfices sur les 3 derniers mois. Donc bon.
Oui, il me semble d'ailleurs que Margaret Vestager à l'Union européenne a d'ailleurs dit que ça aurait pu être évalué à la hauteur des bénéfices de l'entreprise. Si je dis pas de bêtises, hein, je veux vraiment pas l'affirmer, mais il me semble qu'effectivement il y a un rapport au montant de l'amende qui pourrait être bien plus costaud finalement.
Oui, alors qu'ils ont déjà pris en compte, l'Europe indique avoir pris en compte le chiffre d'affaires et la capitalisation boursière d'Apple dans le montant de cette amende, qui est beaucoup plus salée que ce qu'on attendait initialement côté presse. Pour autant, Apple ne payant d'une part pas vraiment ses impôts et d'autre part ayant des bénéfices monstres, bon, on va pas non plus trop pleurer, voilà. Mais tu voulais m'aiguiller au début sur l'annonce produit d'Apple.
Mais effectivement, on revient sur le sujet parce que je suis la représentation parfaite, effectivement. Du fait que, alors je n'ose pas croire qu'Apple sorte comme par hasard un MacBook Air à ce moment-là, ce serait vraiment...
incroyable, n'est-ce pas ?
Incroyable. Mais bon, inévitablement, de toute façon, ça tombe bien. Après, il est possible aussi qu'ils avaient prévu, de toute manière, je ne sais pas quels sont les rythmes des annonces.
Je vais te le dire, je vais te dire très clairement les choses. Apple n'annonce jamais un produit le lundi, on est lundi. Très concrètement, oui, le MacBook Air Pro, évidemment, il n'a pas été designé là du jour au lendemain. Mais,
il n'a pas été inventé dimanche.
Mais son annonce était prévue très probablement, voire, je peux quasiment l'affirmer, mais je ne peux pas vraiment te l'affirmer, mais je peux te l'affirmer, qui était plutôt prévu pour plus tard dans la semaine.
C'est vrai que le lundi, ça n'arrive pas.
Et que publier un communiqué de presse en plein milieu de la nuit pour les Américains, et surtout à peine une demi-heure, une heure après l'annonce de l'amende de la part de l'Europe, bon, c'est un peu...
Ça tombe bien.
Ça tombe bien quand même, ça permet à tous les sites de... forcément, tu es obligé de
les newser. Podcasts.
Et aux podcasts. Et non, mais ça permet de tirer la couverture vers l'annonce de ce MacBook Air M3, qui est un nouveau produit Apple. Et de que Google News soit forcément divisé un peu entre les deux sujets, etc., etc. Donc ça fait diversion et ça fait contre-feu. Et si t'as ton MacBook Air M3 qui est prêt à être annoncé, que tu l'annonces mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou que tu l'annonces une heure après l'Union européenne, autant l'annoncer une heure après l'Union européenne, quoi.
Dans la continuité d'une forme de mauvaise foi, je pourrais tout à fait concevoir que désormais, bon, ce serait peut-être pas pratique, il y a peut-être des raisons, qu'Apple présente tous leurs nouveaux produits dès lundi. Tu vois, pour prouver qu'ils n'ont pas annoncé MacBook Air M3 un lundi, que pour couvrir des problématiques de relations publiques et légales, mais parce qu'ils ont subitement choisi, voilà, c'est fortuit, hein, désormais, d'annoncer ça le lundi. J'en sais rien, je sais pas. Ouais.
Mais bon, alors parlons-en rapidement quand même. Ouais. Bah, mine de rien, c'est des vraies nouveautés. Mais on peut les présenter très rapidement. Ils ont repris exactement les designs de la génération précédente. Donc, c'est un MacBook Air M3 13 pouces et 15 pouces, dont la nouveauté, bah, c'est une puce évidemment plus performante, mais aussi un support vidéo de deux écrans externes à la fois pour la première fois sur un MacBook Air. Jusqu'à présent, il faut savoir que le MacBook Air était limité à un seul écran externe. On a un Wi-Fi plus rapide qui passe à du Wi-Fi 6E et une capacité à décoder la V1, normalement, si je ne m'abuse. Et voilà, hormis ça, on reste à peu près sur le même produit qu'auparavant, sur les mêmes prix aussi, à partir de 1 300 €. Et le même couple 256 Go de stockage, 8 Go de RAM qui commence à faire un petit peu grincer des dents en 2024. Notamment les 8 Go de RAM, ça commence vraiment à être un petit peu radin. Ouais. On arrive dans cette zone là quoi. Moi j'appelle ça la zone iPhone 7, c'est la zone bon ok Apple là c'est vraiment la génération de trop, vous commencez à abuser, peut-être la prochaine génération faudra peut-être se bouger un petit peu quoi. C'est aussi la génération on pourrait aussi appeler ça l'effet iPhone 16 Go, voilà.
C'est plus acceptable.
et à côté de ça, donc le MacBook Air M1 qui du coup disparaît du catalogue pour la première fois et le MacBook Air M2 qui reste au catalogue pour moins cher à partir de 1 200 €. Voilà pour les nouveautés. Ça sort dans la foulée. Il faudra évidemment attendre les tests, mais en réalité, il y aura à mon avis très peu de surprises à attendre de la part des tests dans la mesure où c'est vraiment un refresh assez simple du produit, quoi.
Bien sûr. Mais après, il était question aussi qu'il renouvelle la gamme des iPads, si je ne dis pas de bêtises. Donc, effectivement, il y a peut-être d'autres annonces à venir.
Très probablement. Mais là, de ce qui est concret là aujourd'hui, c'est ça. Et je rajouterais sur les MacBooks que du coup, on fait disparaître. Je crois qu'il n'y en a plus aucun MacBook de design Intel qui soit au catalogue. Comme ils ont déjà renouvelé les Pro, oui, je suis à peu près sûr de moi.
Il me semblait que c'était déjà le cas en fait, non ?
Alors ce que je veux dire par là, c'est que le MacBook Air M1, c'était un design, c'était un châssis conçu pour les processeurs Intel à l'origine.
D'accord, j'ai compris. Il n'y a plus aucun design qui a été associé à la sortie d'un produit sous version Intel, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Là, on a vraiment
à part
un
le
catalogue.
Mac Mini, peut-être.
Avait réduit en taille au passage à la puce M1, je crois.
C'est
peut-être
possible, ouais.
À vérifier. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment une gamme complète qui a été de A à Z conçue pour du Apple Silicon désormais, quoi, en fait.
Ok. On sent que c'est une génération qui est passée et puis on sait que ça leur a bien profité. Et quelque part, même les consommateurs, au final, les utilisateurs de Mac, je pense, en profitent largement. C'est quelque chose qu'ils ont réussi à bien gérer, j'ai l'impression, comme virage. On enchaîne, Kassim, je te propose. Oui. On va laisser Apple de côté, mais on va parler un tout petit peu d'IA avant. Je vais te lister peut-être rapidement les sujets parce que finalement, il y a peut-être pas forcément beaucoup, beaucoup à en dire, mais tu te sentiras libre de réagir autant que tu le souhaites. Alors, en matière d'intelligence artificielle, j'ai noté trois sujets. Le premier, c'est Automatic, qui est une boîte à laquelle on ne pense pas toujours, mais c'est finalement assez costaud, puisqu'ils ont racheté quand même WordPress il y a de ça quelques années maintenant. Et donc, c'est la boîte qui détient, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais plus d'un site sur deux qui fonctionne avec WordPress, d'après les statistiques qui étaient sorties. Je crois même que c'est un petit peu au-delà. Bon, ils ont aussi Tumblr, qui est plus anecdotique maintenant, mais il y a quand même WordPress. Et on a eu un petit souci, un petit vent de panique là aussi au sujet de Automatic, qui a commencé à se mettre en discussion commerciale pour vendre le contenu qui est diffusé sur WordPress, donc comme je vous le dis, sur une bonne partie des sites internet dans le monde, à des entreprises comme Midjourney ou OpenAI à des fins d'entraînement d'intelligence artificielle. Alors ça a effectivement fait mauvais genre parce que ça veut dire que potentiellement de facto à chaque fois qu'on met à disposition du contenu sur WordPress, potentiellement ça peut servir des entraînements. Il a fallu qu'ils réagissent. Ils ont très vite expliqué qu'ils allaient permettre en toute facilité à l'utilisateur de se mettre en réglage opt-out, donc de refuser cette mise à disposition du contenu. Petit problème, c'est par défaut, ça laisse un peu imaginer que le contenu peut être fourni si vous n'intervenez pas de manière explicite. Donc, ça va demander de leur part des petits ajustements. Encore une fois, les choses ne sont pas complètement calées, mais évidemment, c'est des choses à surveiller et on sait à quel point les données d'entraînement pour l'intelligence artificielle, c'est important et à quel point potentiellement, on va avoir du contenu qu'on gère aujourd'hui sans avoir connaissant justement que ça va nourrir des intelligences artificielles demain. Squarespace, hein, qui est aussi un autre outil qui met à disposition des moyens de créer son site internet, a introduit des options similaires pour bloquer la mise à disposition des contenus qui sont faits avec leurs outils pour les données d'entraînement des intelligences artificielles. Ça, c'est un premier point, donc à surveiller. Et on ne se rend pas compte parfois du poids que peuvent avoir certaines entreprises et certains acteurs dans ce domaine-là. Deuxième sujet, c'est, et on ne pouvait pas passer à côté, la plainte d'Elon Musk à l'égard d'OpenAI et a priori plus personnellement au sujet de Sam Altman, parce qu'il considère, Elon Musk, que OpenAI n'est plus fidèle à ce qu'ils ont défini à leur lancement. On peut rappeler que Elon Musk était partie prenante et a même participé au financement d'OpenAI au départ. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros entre 2016 et 2020. Il a dû se retirer du board entre les deux dates. Il porte plainte contre OpenAI, notamment parce qu'ils ne sont plus en phase avec la promesse et les intentions de travail du départ, à savoir, en gros, d'avoir un rapport à l'intelligence artificielle dans un domaine de recherche, mais pour le bien-être de l'humanité. Et là, ils considèrent maintenant qu'on est trop loin de cette proposition de départ et qu'on est dans des propositions mercantiles, notamment avec ce partenariat avec le diable, hein, Microsoft. Donc, je pense qu'il y a quand même peu de chances que ça aboutisse et qu'il puisse y avoir des dédommagements, mais je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il le fait vraiment. Je pense qu'il y a peut-être plus à perdre qu'autre chose, mais à voir. Peut-être que tu auras un avis différent, Kassim. OpenAI qui a réagi en disant que, en gros, et je le dis avec mes mots, mais si jamais il porte plainte, bah, c'est que justement, hein, il est vexé de ne pas être resté à la tête de l'entreprise, ou parmi les dirigeants de l'entreprise, en tout cas au board, alors que désormais, ça cartonne. Bon, bah, y a de bonnes raisons de penser que ce soit vrai. Et dernière chose, c'est un domaine qui n'a pas été encore complètement exploré de manière très convaincante, je crois, par l'intelligence artificielle et par les entreprises de la tech aujourd'hui. En tout cas, il y a eu forcément des propositions qui ont été mises en avant et on a vu des choses dans l'intelligence artificielle autour de la musique qui pouvaient être sympas. Mais là, ça semble assez chouette ce que propose Adobe avec donc des expérimentations. Ce n'est pas encore un nouvel applicatif de la gamme Creative Cloud qui est à notre disposition, mais je pense que ça ne saurait tarder. Mais un outil qui permet vraiment de générer de manière hyper simple et assez convaincante, vraiment comme on le fait avec de la génération d'images, mais de la musique avec des styles qu'on peut lui donner comme instruction et des orientations itératives qu'on peut donner, donc en disant rajoute-moi ceci, enlève-moi un petit peu de cela, pour arriver à créer assez subtilement de la musique, et avec la possibilité aussi de retraiter de la musique qui lui est soumise. Et il me semble, mais je me trompe peut-être, que ce sujet n'avait pas été adressé de manière aussi pas puissante, parce qu'il y a des outils très puissants qui existent en matière d'intelligence artificielle générative dans le domaine de musique, mais en tout cas aussi puissante, mais aussi facile d'accès. Là encore, ce n'est pas une application qui est à disposition, mais j'imagine que ça va arriver dans les semaines et les mois à venir. Voilà, c'est un peu le pouls de l'intelligence artificielle de cette semaine. Je ne sais pas si tu voulais réagir, compléter, corriger ce que je viens de lister, Kassim.
Non, bah alors du coup, sur le dernier point sur la solution d'Adobe, moi je pense que les gens peuvent tout de suite imaginer quelque chose de revendieux, composer de la musique sur le prochain tube de Spotify. Mais je pense qu'il faut voir plus simple. Je pense qu'il y a une vraie recherche, notamment des créateurs de contenu sur YouTube ou sur Twitch, d'avoir des musiques en background qui soient libres de droit, ou en tout cas qui soient pas activables en DMCA. J'ai dit libre de droit en parlant du travail d'une IA générative, on pourra me rironner évidemment, mais sentant que le travail issu, même quand elle a piqué des données aux créateurs, ce qui est issu de l'IA, après ça devient un truc sur lequel il n'y a pas de licence. Dans ce cas-là, ce sera pour être utilisé pour de la vidéo YouTube, et je vois très bien des gens pour du petit documentaire ou des trucs comme ça utiliser ce genre d'outils à l'avenir. Donc je pense qu'il y a de l'avenir, malheureusement pour les gens qui composent de la musique pour des génériques de podcasts, des génériques de d'émissions, etc. Et sur Elon Musk, bon, je pense que
sujet quand même sur la musique, tu sais, alors je suis très je raccroche tout à Dune, hein, en ce moment, vous l'avez compris, de toute façon en ce moment je me lève le matin, je pense à ça, puis là je sors du cinéma, donc encore plus. Mais je revoyais un documentaire qui expliquait que le sound design de Dune était assez innovant En ce sens, et je trouve ça génial quand on met ça en parallèle de cette news autour d'Adobe, parce que ils n'utilisent que des sons naturels. Donc, ils donnaient, par exemple, je ne sais pas si tu avais suivi ces infos-là, mais par exemple, tu as les, j'ai plus le nom, mais les véhicules qui ressemblent à des libellules géantes là, dans Dune, qu'on voit aussi hein, dans le premier. Le son a été travaillé en faisant un mix entre une tente qui flottait au vent dans une tempête, un scarabée qui battait des ailes et un ronronnement de chat. Et donc, en fait, juste tous les sons, tout le sound design de Dune a été réalisé à partir de contenus réels et de sons naturels. Et je trouve ça juste génial de montrer à quel point la saveur si particulière qu'il y a dans Dune au niveau des certains choix techniques et artistiques sont appuyés par des choses qui sont à contre-courant absolu de tout ce qu'on voit en matière d'innovation. Et on commence à parler de musique générée par intelligence artificielle et en même temps, on arrive à savourer peut-être encore plus des contenus qui sont créés de manière plus artisanale. Voilà, je trouvais juste que le parallèle était assez rigolo et assez remarquable. Bon, il n'y a peut-être que moi qui m'enthousiasme hein, là-dessus.
Non, mais voilà. Non, mais oui, il y a encore de la voix, mais c'est évidemment le sujet, c'est plutôt pour les petits créateurs ou créatrices. Ouais. Voilà, pas pour les grosses productions qui vont continuer à utiliser tout ce qu'on peut utiliser. Pour faire du travail original. Et donc, sur Elon Musk, je pense que tu as un peu tout dit et je pense qu'on est effectivement plus dans du... je pense qu'il y a deux Elon Musk en même temps. Là, c'est le Elon Musk effectivement vexé, un peu enfant. Et il y a le Elon Musk aussi, on va dire, aux idées politiques de plus en plus marquées, qui vraiment a un problème à la fois avec Microsoft, qui est en bataille ouverte avec Bill Gates depuis longtemps, même si Bill Gates n'a plus de rapport avec Microsoft. Je pense que dans sa tête, lui, il y a encore un rapport. Et on l'a vu aussi invectiver Satya Nadella sur Twitter. Je pense que tout ça se mélange un peu dans sa tête quand il est au moment de porter plainte. Et je suis pas sûr que ça ira très loin, mais pour moi, on est un peu là-dedans, quoi.
Cette personne ne tourne pas assez souvent cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, ou l'équivalent au clavier, peut-être. Je sais pas, mais bon. On enchaîne avec tout le reste que j'ai pas réussi à classer, Kassim. Je vais les prendre vite par paquet et puis je vais les lister un peu vite et tu pourras réagir. Je sais pas si tu as suivi déjà cette affaire du distributeur qui fait de la reconnaissance faciale à l'insu du plein gré des utilisateurs. Je sais pas si tu l'avais suivi. C'est génial. C'est sur Reddit, il y a un utilisateur qui a posté une photo d'un distributeur de M&M's aux États-Unis, je crois. Et il y a un message d'erreur Windows qui apparaît. On est toujours en train de sourire quand on voit des messages, des écrans comme ça dans les lieux publics où il y a des écrans bleus ou des erreurs Windows. Donc là, c'est le cas. Et par contre, l'erreur, c'est facial recognition app.exe application error. Il y a une exception erreur qui a été identifiée. Et donc, c'est une bibliothèque de reconnaissance faciale. Et évidemment, l'internaute a publié ça sur Reddit, donc ça a fait tache d'huile dans plusieurs médias tech. Et de manière assez avérée, il y a de la reconnaissance faciale. C'est pas une théorie du complot et ça semble avoir été d'ailleurs désactivé. Mais il y a des distributeurs qui utilisent de la reconnaissance faciale. A priori, évidemment, si on réfléchit à pourquoi, c'est hyper intéressant de se dire que déjà, tu as de la mesure publicitaire de qui voit tes publicités qui sont diffusées sur les distributeurs. Parce que oui, c'est un distributeur qui présente une grosse publicité. Et donc, si tu peux avoir des indicateurs de mesure sur la publicité, c'est un des gros sujets qu'il y a dans le monde de la publicité. Tu sais, il y a ces petits écrans, par exemple, aux stations essence qui diffusent la pub. Mais en fait, les annonceurs sont assez embêtés parce qu'ils n'ont que des indicateurs assez flous de qui consulte leur pub. Donc, si tu as un outil qui voit quand il y a quelqu'un derrière qui regarde ton contenu, c'est hyper pratique. Et puis, surtout, ça te permet d'affiner ta publicité en fonction du typologie de personne qu'il y a en face. On y voit vite quand on creuse les intérêts qu'il peut y avoir en tant qu'industriel à voir ce type de choses. Et donc, l'entreprise a repris la parole quand même en disant derrière, « Oui, mais vous inquiétez pas, de toute façon, on était complètement compatible avec le RGPD. Hein, vous inquiétez pas. » Donc, ce dont, évidemment, tout le monde peut largement douter. Mais on peut commencer à avoir peut-être un peu peur de voir qu'il y a ces fonctionnalités qui vont se déployer et qui sont peut-être même d'ores et déjà présentes. Tu vois, c'est les distributeurs du futur. T'es surpris ou pas à l'annonce de ce genre de dispositif?
Surpris non, mais bon, c'est vrai que j'avoue que c'est pas forcément la tech qui m'enthousiasme, surtout que tu parlais tout à l'heure des questions de, d'environnement et voilà, de réponse au dérèglement climatique. Je trouve que de rajouter de l'intelligence là-dedans, bon, c'est...
Ouais. Il y a peut-être pas besoin que ce soit de l'IA très consommatrice d'énergie, mais
ne serait-ce que de la reconnaissance faciale, ça veut dire des caméras, ça veut dire...
Oui, t'as raison, des composants en plus, ça, inévitablement, ouais. C'est sûr. Alors, dans un tout autre domaine, on a Meta qui a obtenu gain de cause pour obtenir des informations concernant Pegasus, qui est un logiciel espion développé par NSO, qui est une entreprise israélienne et qui aurait été utilisé par plusieurs gouvernements. Et donc il y avait une plainte qui était en cours, et donc WhatsApp, en tout cas Meta, a obtenu gain de cause, alors non pas pour avoir l'intégralité de l'info, notamment côté serveur, etc., mais sur les fonctionnements du spyware. Donc ça risque d'être finalement hyper intéressant, et je suis pas certain que parce que Meta va avoir l'info, nous-mêmes on va avoir l'info, mais ça reste quand même un secret assez remarquable d'avoir une entreprise comme NSO qui arrive aussi massivement à espionner, voire parfois potentiellement prendre contrôle au travers de Pegasus des smartphones. Et évidemment, quand on réfléchit aux enjeux de confidentialité qu'il y a sur certaines personnalités politiques ou des journalistes, c'est hyper intéressant d'en savoir un petit peu plus. Ça aura mis quand même vachement de temps, et le sujet n'est pas encore réglé, c'est pas gagné, mais c'est quand même sympa de voir qu'il y a ce sujet-là. Et puis, toujours dans un registre du côté légal et des smartphones, deux autres sujets. D'une part, il y a l'éditeur c'est MacPo, je ne sais plus quel, Clean My Mac, voilà, qui fait notamment Clean My Mac, mais qui propose aussi un service qui s'appelle Setup, qui propose d'avoir un accès gratuit en illimité et par abonnement à des applications sur Mac. En gros, c'est le Netflix de l'application Mac qui va de l'application
le
Mac,
Game Pass,
pardon.
C'est le Game Pass des applications.
Voilà,
Mac.
C'est le Game Pass, voilà, des applications Mac qui va proposer un store sur ce fonctionnement-là sur iOS en profitant des évolutions de la réglementation dans l'Union européenne. Ça c'est sympa de voir ce lien aussi. Et puis un dernier sujet, alors qui n'est pas forcément légal, quoique, c'est la désactivation de la fonctionnalité RCS par Google sur les appareils Android qui ont été routés, donc en gros qui ont été débloqués au niveau de leur protection, et ils désactivent le RCS a priori. Alors, ce n'est pas sur tous les smartphones, mais a priori, il y a des smartphones qui sont routés, qui se voient désactiver la fonctionnalité de RCS. Vous savez, cette fonctionnalité de RCS, c'est l'évolution un peu intelligente et au goût du jour de ce que devrait être le SMS en 2024, a priori pour empêcher la propagation de spam et les abus sur ces outils de messagerie sur les smartphones Android. Donc, coup dur, et je ne sais pas si ça ne va pas un peu loin à voir. Je ne sais pas si tu voulais réagir à l'un ou l'autre de ces sujets, Kassim.
J'avoue que ça fait longtemps. Le routing d'applications de smartphone Android, c'est loin derrière moi aujourd'hui. je pense que pour l'utilisateur, honnêtement, pour l'utilisateur moyen, aujourd'hui, il n'y a quand même plus vraiment d'intérêt à route. Il faut savoir que ça entraîne plein de problèmes du genre. Je crois que Netflix, par exemple, ne fonctionne pas s'il détecte que ton smartphone est route, ce genre de choses.
C'est-à-dire que très vite, tu n'as plus accès aux Google Play Services qui sont quand même assez essentiels. Il y a notamment des smartphones qui se targuent de ne pas dépendre de Google. Alors, le problème, c'est que tu as plein d'applications un peu courantes qui ne fonctionnent plus, les applications bancaires, etc., pour un certain nombre de raisons, malheureusement, parfois assez légitimes, mais bon.
Oui, et dans le cas du RCS, j'avoue qu'en termes de sécurité, je peux comprendre que un smartphone route, ils savent pas ce que tu peux faire. Comme tu as les droits, littéralement, tu as les droits admin. Donc, potentiellement, ce que ça peut appliquer dans le chiffrement des données, etc.
Ouais, mais est-ce que c'est vraiment plus embêtant que le SMS? Parce que le SMS reste fonctionnel, tu vois.
Oui, mais alors, le SMS, il n'y a pas de présomption de sécurité. Là où le RCS, tes contacts pourraient s'imaginer que parce que tu es en train de discuter en RCS, tout est sécurisé, alors qu'en fait, tu utilises le RCS depuis un smartphone route qui potentiellement est compromis, quoi, on va dire.
Ouais, ok.
Je vois comme ça.
Ça se défend. Et puis effectivement, tu as raison, sans doute que c'est pas... il n'y a pas de nombreuses personnes qui aujourd'hui dépendent d'un appareil routé.
Comme jailbreak un iPhone aujourd'hui, c'est quand même assez...
C'est vrai que ça ne se justifie plus vraiment. Les ventes du Vision Pro, Kassim, seraient pas si mauvaises que ça, en fait. Alors, c'est Ming-Chi Kuo, l'analyste qui serait plutôt bien renseigné, qui aurait identifié le fait qu'il y aurait eu plus d'expéditions de produits que ce que Apple aurait initialement prévu. On parle de entre 200 000 et 250 000, là où Apple aurait initialement prévu des quantités entre 150 000 et 200 000. Et les retours seraient finalement inférieurs à 1%. Et je n'arrive pas à me rendre compte, mais j'ai l'impression qu'effectivement, ce n'est pas beaucoup. Ceci étant, il y a une news dans la news, c'est de se rendre compte qu'en fait, quand on met bout à bout ces infos, bah, ça laisse quand même imaginer que Ming-Chi Kuo, tout aussi fiable qu'ont été beaucoup des informations ou plutôt des leaks ou des rumeurs qui ont été partagées, finalement, il n'y a peut-être plus autant d'accès à de l'info parce que bah, finalement, ça reste somme toute assez flou comme info. C'est-à-dire que ce 1%, c'est un chiffre relativement précis, mais qu'on peut avoir si on a une estimation précise du nombre d'appareils qui ont été expédiés. Parce que finalement, si tu es sur une fourchette aussi floue de parler de moins de 1%, peut-être que ce n'est pas vraiment très, très précis à voir. Mais bon, les succès ne seraient pas si mauvais que ça. Finalement, je ne sais pas s'il y a grand monde qui supputait le fait que ça pourrait être un échec commercial absolu, le Vision Pro. Je ne suis pas certain. À voir. Bah, je te voyais avec un Vision Pro en photo coulisses. Tu l'utilises pour travailler en mobilité, c'est ça?
Surtout, je suis en train de m'occuper du test, donc j'essaye de mettre les promesses d'Apple, promesses de remplacer un MacBook, promesses de remplacer un téléviseur, etc.
Ok. Et alors ton sentiment à ce stade?
Le test de fond.
C'est bien.
Je répondrai rapidement. Alors, à ce stade, je ne vais pas révolutionner ce qu'a dit le reste de la presse. C'est un produit qui est beaucoup trop prototypal quoi, à ce stade. Sur le plan technique, il y a plein de trucs qui fonctionnent bien, mais le logiciel n'est pas du tout prêt. Et moi, en l'occurrence, j'ai tenté de vraiment l'expérience de vraiment remplacer un Mac, c'est-à-dire de ne pas connecter un Mac sans fil au Vision Pro.
C'est courageux.
De vraiment l'utiliser, d'utiliser juste le Vision Pro tout seul avec quand même un clavier Bluetooth et un trackpad, mais comme ça. Et donc, très concrètement, écrire un article avec le Safari du Vision
Excellent.
Pro. Dès que j'ouvre trois fenêtres, le truc plante au bout de quelques.
Ah bon?
Des grosses instabilités qui font que je pouvais pas. J'avais pas le niveau de confiance suffisant pour travailler. J'ai perdu plusieurs fois des paragraphes de texte.
Attends, c'est hyper important ce que tu me dis, parce que là, à ce stade, j'ai l'impression que le Vision Pro, on peut être convaincu ou pas par le produit, par les usages. Ça, c'est une chose. Et je pense que là, les avis divergent et qu'on en parlera encore un moment. Il y a aussi, de l'aveu de beaucoup, le fait que c'était une première version, dans le sens où ce n'est pas évidemment une version grand public de par son prix, de par la proposition de valeur que c'est. Mais vraiment, je n'ai jamais entendu un manque de fiabilité, même logicielle et dans les usages, au point que ça planterait à partir du moment où tu mets trois fenêtres. Enfin, ça me paraît.
J'ai vraiment. C'est pas systématique, mais j'ai vraiment eu plusieurs fois.
Ça arrive.
Et des fois où je suis vraiment mis en quête d'utilisateur, j'écris mon article et d'un coup, tout se ferme et les fenêtres se réinitialisent. Et c'est vraiment un plantage façon iPhone OS 2.3. Le retour au dashboard sans que les applications soient lancées. Et t'es obligé de les relancer, alors elles se relancent au même endroit, mais du coup l'article a perdu des paragraphes. Et puis voilà, des petits problèmes de finition de logiciel, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, parce que c'est Apple Vision OS 1.0 et que ça arrivera plus tard. Mais malgré tout, relativement convaincu par la technologie du truc et le fait que j'ai totalement confiance dans Apple, dans le fait que ce que j'utilise n'est pas ce que Apple aimerait que j'utilise dans un an, deux ans, trois ans, avec des évolutions d'OS et des évolutions de l'appareil. Je terminerai sur le fait que c'est vraiment, logiciellement, faut vraiment imaginer. Apple insiste sur le côté remplacer un Mac. Aujourd'hui, c'est vraiment plutôt l'iPad qu'il faut imaginer remplacer par un Vision Pro, dans le sens où c'est littéralement iPadOS, au point où quand les services t'envoient une notification par mail comme quoi tu t'es connecté sur un nouvel appareil, ils disent vous êtes connecté sur un nouvel iPad.
Ouais, d'accord, tu confirmes que c'est très proche d'un iPad à la fois techniquement et dans l'expérience finalement.
Oui, les applications, c'est vraiment Safari, tout ça, c'est vraiment tout l'usage que tu as. Si tu peux aujourd'hui remplacer ton PC par un iPad, tu peux le remplacer par un Vision Pro. Si au contraire, tu peux pas remplacer ton PC par un iPad parce qu'il te manque des applicatifs de bureau un peu lourds, tu pourras pas le remplacer par un Vision Pro.
C'est hyper intéressant. Mais alors, du coup, je vais aller jusqu'au bout de la conversation, Kassim. Tu es en train de me dire que tu le testes tout le temps. Et là, tu es en train d'enregistrer un podcast, un épisode de Tech Café. Ça veut dire que tu es en train d'enregistrer Tech Café avec ton Vision Pro sur les yeux ?
Alors, non, parce que j'ai eu on arrive à une autre révélation. Je peux te faire une autre révélation, si tu veux, de mon test. Quand tu te blesses au crâne, c'est beaucoup moins remplaçable qu'un PC portable. Mon PC portable, je peux continuer à l'utiliser. quand tu te blesses au crâne, tu ne peux plus vraiment utiliser. Enfin, j'évite d'utiliser trop le Vision Pro en ce moment. Voilà. Et que j'ai une vraie blessure, donc voilà, j'évite de faire le malin. Je peux peut-être en profiter pour glisser du coup ce que j'avais rajouté dans le conducteur très rapidement. Pour dire que quand vous êtes européen et que vous visitez des pays européens, de l'Union européenne, vous avez le droit à ce qui s'appelle la carte européenne d'assurance maladie, qui est un truc que vous pouvez demander, qui est gratuit, qui est valable un an ou deux, je crois, qui est vraiment en gros l'équivalent de votre carte vitale, mais pour le reste de l'Europe. Et ça permet de faciliter, c'est pas obligatoire, mais ça permet vraiment de faciliter la paperasse si vous vous retrouvez face à un médecin ou un hôpital dans d'autres pays. Faut le savoir. C'est un bon truc à savoir. Et l'autre truc à savoir, c'est que donc c'est une carte physique. Mais si, comme moi, vous l'avez laissée dans votre pays d'origine parce que vous dites que vous n'en avez pas besoin, parce que vous ne vous auriez jamais rien, ou en tout cas que vous l'avez oublié, quoi. Vous avez l'application Amélie, qui est l'application officielle de la sécurité sociale en France, disponible sur iPhone et sur Android, qui propose une version dématérialisée de cette carte. Pour l'avoir déjà demandé en version physique, il faut l'avoir déjà reçue une fois dans ta vie en version physique. Mais pas besoin de l'avoir sur toi. En l'occurrence, du coup, j'avais l'application, j'avais du coup ma carte que je pouvais montrer aux gens. En l'occurrence, ils voulaient, du coup, j'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyé par mail dans la foulée. Ils étaient très contents. Ça a pu vachement accélérer le process d'admission. Mais voilà, c'est bon à savoir, je pense. L'application Amélie, c'est gratuit. C'est pratique d'avoir ça sur soi.
Trop bien. Trop bien. Alors j'ai toujours la particularité, moi, je suis affilié à la MSA. Je fais partie de ces gens qui sont affiliés à la Mutuelle Sociale Agricole plutôt que la Sécurité Sociale. Je pense que ça doit fonctionner à peu près pareil, mais ça dépend de la Amélie.
Normalement, je pense
dans
que
la PMSA peut-être.
Ouais, je pense qu'Amélie même te prend en charge même si tu es pas.
Okay.
C'est vraiment le truc de l'État au-delà de. Enfin, je pense que ça marche aussi.
D'accord. Ok. Très bien. Moi qui, tu vois, j'ai pour objectif de faire quelques petits voyages en Europe, notamment cette année, je pense je vais commander ça pour toute la famille comme ça. Hyper intéressant. Et donc, oui, Vision Pro, quand t'as une bosse, c'est pas possible, quoi. Ok.
Ouais.
Je termine alors encore avec une histoire rocambolesque avec un produit Apple, mais ce n'est pas Kassim avec le Vision Pro qui ne peut plus le porter parce qu'il s'est blessé, mais c'est pas n'importe quel kidam, mais c'est un ancien pilote de Formule 1 qui a, je sais pas si t'as vu cette histoire, mais c'est juste rigolo à lire, oublié ses AirPods dans un avion d'une compagnie aérienne, c'est United, et il les a oubliés au point qu'il a vu que les AirPods se promenaient d'un trajet en avion à l'autre. Il a pu traquer comme ça le... On dirait, tu sais, les infos qui ont suivi l'annonce des AirPods ou des AirTags plutôt. Et là, bon, c'est encore un nouveau témoignage du même style. Et problème, et donc il a tweeté en mentionnant la compagnie aérienne en disant « Oh, mes AirPods, vous allez les retrouver, oui ou non ?» Et au départ, il supputait le fait que les AirPods n'étaient pas... en gros, que les avions n'étaient pas nettoyés et que les AirPods... ils étaient toujours à la même place, mais il a commencé à se rendre compte que petit à petit, les AirPods, ils continuaient à faire des trajets en avion, mais ils allaient aussi dans les hôtels, ils allaient se balader. En continuant à faire des recoupements, il en a vite déduit qu'hélas, probablement un salarié de la compagnie avait volé ses AirPods, ne l'avait pas dit et les avait gardés. Il a continué à interagir. Au final, United a réussi à... ils ont appelé et ils ont dit qu'ils avaient retrouvé les AirPods, qu'ils les avaient avec eux et qu'ils pouvaient les redonner. Ils n'ont pas dit si jamais quelqu'un, malheureusement, a été viré pour vol dans la compagnie aérienne. Et au final, beau joueur, il avait même abandonné au départ les réclamations qu'il faisait parce qu'il avait bien senti que comme l'affaire grandissait et avait pris beaucoup de viralité, il se sentait un petit peu responsable du fait que justement quelqu'un puisse être incriminé de vol au sein de la compagnie aérienne. Et il a considéré, beau joueur, que peut-être cette personne avait des difficultés à s'acheter des AirPods et qu'il en était bien, il était bien content de lui en faire profiter. Bref, voilà, c'est une histoire rigolote que j'ai vu passer sur Slate et que je vous invite à lire. Et puis, dernière chose, parce qu'on avait parlé de The Line avec Guillaume Poggiaspala il y a de ça quelques années maintenant, et on en parle assez régulièrement, qui est cette vision de la ville dystopique en Arabie Saoudite et d'ailleurs sur lesquelles on misait potentiellement des billets sur le fait que ça ne verrait jamais le jour. Alors non pas que ce soit en train définitivement de sortir de terre, mais enfin les travaux avancent, donc c'est quand même en bonne route. Et on avait déjà souligné à quel point ça pouvait être une véritable catastrophe écologique. On a un petit sujet d'image, là encore une fois, hein, avec EDF qui a répondu un appel d'offres avec The Line et qui va contribuer notamment pour de la mise en place de barrages hydroélectriques pour alimenter en électricité The Line. C'est pas les seuls hein, à faire partie du pool de ceux qui vont évidemment générer de l'énergie là-bas. Mais enfin, ils sont en bonne place. Alors ça crée vraiment des soucis même en interne chez EDF. Avec 800 employés qui seraient concernés par le sujet et qui, d'ailleurs, pour bonne partie, refuseraient de participer à ce dispositif. Donc voilà, ça a des ramifications assez proches de nous, enfin, ça a des conséquences plutôt que des ramifications assez proches de nous sur cet enjeu qui, désormais, dépasse un peu les frontières. Et surtout, ce truc, moi, je ne pensais pas qu'on verrait forcément ce sujet aboutir. Eh bien, si, et ça avance même à vitesse grande V. Il y a même des photos qui ont été diffusées il y a de ça quelques semaines maintenant et qui montrent que les travaux avancent très vite. C'est effrayant. En fait, c'est d'un point de vue technologique, d'un point de vue histoire, c'est remarquable. Moi, je trouve ça vraiment fou de s'imaginer qu'on assiste à une sortie de terre de trucs aussi incroyables, sans précédent à l'échelle de la planète, et d'un point de vue écologique, de voir à quel point c'est une véritable catastrophe. Je vous renvoie hein, sur les différents articles, il y a Numérama qui avait très bien couvert les enjeux écologiques que ça pouvait avoir. Est-ce que tu partages cette ambivalence, Kassim, que je témoigne, qui est celle de trouver ça remarquable sur le plan technologique et un peu historique, de voir cette ligne très science-fictionniste sortir de terre, elle pourrait presque sortir de Dune, et en même temps, de considérer qu'il y a une catastrophe écologique, forcément.
Alors, j'ai reboucler avec le sujet précédent, finalement, parce que moi, c'est un truc qui m'interroge de plus en plus, moi, à titre personnel. Comme journaliste tech, notamment quand j'ai vu arriver l'Apple Vision Pro, la sortie commerciale de l'Apple Vision Pro et la couverture de la presse, etc., j'ai vraiment de plus en plus cette fracture entre la personne en moi qui est très technophile, qui trouve que c'est un objet remarquable, qui trouve que c'est quelque chose vraiment à la pointe de la technologie, et qui pose des questions aussi sur l'avenir de l'usage de l'informatique qui peut être intéressant, en vrai. Et le fait que de ce capitalisme qui essaie de trouver des nouveaux usages là où il n'y en aurait pas forcément besoin et qui veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, là où on est devant une catastrophe et à un côté de « on fonce dans le mur ». Mais bon, on aura un casque sur la tête pour voir autre chose que la réalité. Enfin voilà, tout ça, tout truc. Bon, là, j'enfonce une porte ouverte, puis je joue un peu mon Black Mirror nul. C'est un peu nul de dire ça, parce que la réalité virtuelle, c'est aussi beaucoup plus cool que juste se masquer de la réalité. C'est un peu nul quand tu dis ça, ça fait un peu boomer. Mais c'était pour un effet de style, pour dire il y a une fracture entre le côté technophile et le côté plus conscient des enjeux environnementaux, quoi, on va dire.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est pas si évident que ça. Je pense d'ailleurs que c'est pas applicable à tout. Par exemple, tout à l'heure, j'ai mentionné très très rapidement les travaux qui n'ont pas attendu le Mobile World Congress du tout, hein, mais sur la 6G par exemple, ou encore il y a eu des smartphones d'ailleurs, je crois, qui ont été annoncés en 5G à moins de 400 €. Donc on sent que c'est une technologie qui se démocratise. Et on a pu avoir ce type de remarque à l'arrivée, un peu plus perçue par le grand public, de la 5G. En disant, mais enfin, où va-t-on avec les enjeux écologiques qu'on a d'avoir des évolutions de réseau? Est-ce que finalement, on n'est pas déjà bien content des usages liés à la 4G? C'est vrai qu'il y a plein de sujets sur lesquels la remarque que tu fais et dans laquelle je m'inscris assez facilement a aussi ses limites. Donc, par exemple, encore une fois, la 4G, 5G, 6G, ce sont des évolutions de réseau qui sont de toute façon naturelles parce qu'il pourrait y avoir des saturations du réseau. Il faut s'adapter et puis ça peut apporter des nouveaux usages qui sont très concrets et l'impact écologique n'était pas aussi monstrueux. Si demain, on doit remplacer l'informatique par des ordinateurs avec du spatial computing, effectivement, on peut se demander si vraiment la plus-value mise en regard de la consommation, des émissions carbone que ça engendre, est justifiée. Et quand bien même tu t'appelles Apple, quand bien même tu promets que tes produits que tu sors sont neutral carbone, ce qui est encore une fois discutable et sur lesquels on pourrait avoir des réserves, bien évidemment. Mais je comprends ton point, effectivement. On va terminer, Kassim, par une micro-rubrique jeux vidéo. J'essaye de me mettre à la hauteur du conducteur des épisodes traités habituellement par Guillaume Pogdiaspala. Mais il y a un sujet, en fait, principal qu'on va relayer. C'est Yuzu, qui, au-delà d'être... c'est quoi ? C'est un citron, d'ailleurs, à la base, le citron Yuzu, si je ne dis pas de bêtises. C'est surtout un émulateur que les plus fans de rétro gaming et, on ne va pas se mentir, de piratage connaissent parfaitement bien. C'est un émulateur de Switch, enfin de Nintendo. Si je dis pas de bêtises, c'est juste la Switch ou c'est que Nintendo d'ailleurs, Yuzu, comme émulateur
C'est que la Switch, et si je ne m'abuse, c'est une référence à l'émulateur Citra, qui était un émulateur de la Nintendo 3DS, aussi dérivé du citron, quoi.
C'est le successeur. Bon, tu vois, t'éclaires ma lanterne. Moi, je ne connais Yuzu comme étant le logiciel que j'ai installé sur mon Steam Deck pour tester le comportement de Zelda Tears of the Kingdom. Véridique, j'ai vraiment joué sur la Switch, mais je voulais vraiment voir comment ça marchait sur Steam Deck. J'étais un peu déçu d'ailleurs. Bref, ils ont été dans le collimateur de la justice de la part de Nintendo qui trouve qu'ils abusent un petit peu. Tu en as déjà très bien parlé dans le rendez-vous... C'est toi qui en as parlé dans le rendez-vous jeu ? Non, c'est Patrick qui en parlait dans le rendez-vous jeu. C'est pas celui que t'as couvert.
On en parle tous très bien.
On parle très bien. Mais en plus, il y a du nouveau très très frais derrière et tu as complété le conducteur en ce sens, Kassim.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est Yuzu, au-delà d'émuler une console qui est actuellement encore en cours de commercialisation, ce qui pose toujours un petit peu un problème dans ce genre de cas, a aussi voulu surtout faire un business avec ça, avec un Patreon, etc. Et a vraiment brouillé les lignes, on va dire, entre émulation et piratage pur et simple. Il y a notamment, je pense qu'il y a en partie ce qui a déplu aussi à Nintendo. Bon, déjà, Nintendo, quand on touche à leur propriété, bon, déjà, ça leur plaît pas beaucoup, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que, par exemple, Tears of the Kingdom, tu le mentionnais, c'était retrouvé jouable avant sa sortie commerciale, grâce notamment à des émulateurs comme Yuzu, mais genre une semaine ou deux avant la commercialisation, ce qui entraînait aussi des leaks, etc. Donc bref, ça pose tout un tas de problèmes. Plainte de Nintendo et fin de l'affaire relativement rapide puisque il y a eu un accord entre les avocats donc de Tropic Ace, qui est l'entreprise qui édite Yuzu, et Nintendo, un accord pour que Yuzu va payer 2,4 millions de dollars à Nintendo et surtout va livre le site web yuzuemu.org à Nintendo. Et promet d'arrêter la distribution de Yuzu et de supprimer globalement toutes les sources, l'ensemble de Yuzu tel qu'édité par l'entreprise qui a été poursuivie par Nintendo of America va arrêter tout ça. Cependant, et je pense que tu allais le dire si je ne le dis pas tout de suite, Yuzu était un projet open source. Et donc, évidemment, il va y avoir des forks en veux-tu, en voilà, et sur lequel, pour le coup, ni l'éditeur de Yuzu ni Nintendo n'ont la main. Je pense pas que ça signe la fin de l'arrêt de l'émulation de la Nintendo Switch, qui est déjà de toute façon une console qui a été craquée jusqu'aux os. mais par contre, je pense que ça va foutre un petit frein dans le fait que c'était devenu très grand public. Et il faut comprendre aussi, si tu me permets un petit mot sur l'émulation de la Switch, il faut comprendre que c'était devenu un enjeu même de piratage sur PC au sens large. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un souci qui était que la Switch était, comme je viens de le dire, craquée jusqu'aux os. Les jeux qui sortaient à la fois sur PC et sur Switch étaient protégés contre les cracks sur PC et résistaient plutôt bien aux pirates, mais se retrouvaient jouables dès le premier jour sur PC par l'intermédiaire d'une version émulée de la Switch, au point où c'était vraiment, tu téléchargeais le jeu sous forme d'exécutable, tu t'en fichais. En fait, c'était devenu presque transparent le fait qu'il y ait de l'émulation. Tu double-cliquais sur l'exe, et en fait, derrière, il y avait Yuzu qui se lançait automatiquement, mais peu importe. Ça lançait le jeu. Et donc, ton jeu était piraté, en fait, jour 1, par l'intermédiaire de sa version Switch, alors que la version PC était encore protégée. Donc ça posait des problèmes aussi aux éditeurs tiers. Voilà, on est dans ce contexte-là quand Nintendo porte plainte aussi. Donc je pense que le fait de virer Yuzu va quand même freiner un peu l'accès, ça va refaire partir, je pense, l'émulation dans quelque chose d'un peu plus nerd, un peu plus roots, qui sera un peu moins accessible, ce qui va permettre de faire gagner un peu de temps à Nintendo. De toute façon, après, il y a la prochaine console aussi qui sortira l'an prochain, donc voilà, je pense qu'on en est là.
Ils vont souffler un peu. Moi, pour faire l'analogie parfaite, je pense, je l'ai trouvé ce matin en me réveillant. Presque. Je trouve que c'est comme Popcorn Time. Je sais pas si tu te rappelles, mais Popcorn Time,
exactement,
quand c'était vraiment répandu en matière de piratage, c'était tellement simple d'accès et tellement bien maquetté que vraiment passer à côté, c'était compliqué. Et ça a été, voilà, ça a été un peu bloqué. Ça a été complètement bloqué d'ailleurs. Et derrière, il y a eu des alternatives du même type. Il y en a encore aujourd'hui. Mais on n'est pas dans une telle facilité d'accès et pas dans une telle notoriété d'image. Je pense que finalement, le parallèle, il est là. C'est qu'encore une fois, l'émulation de la Switch, elle va continuer et elle sera accessible encore, mais elle ne sera pas aussi accessible au grand public que ça ne l'était avec Yuzu et pas aussi visible. Bon, quelque part, on en retrouve peut-être une situation de normalité. Au point, hein, ça y est, évidemment, vous allez sur yuzuemu.org et vous n'avez plus aucun lien de téléchargement si vous vouliez vous dire ah, « Tiens, peut-être qu'ils n'ont pas encore tout retiré, là. » Alors, ça y est, c'est déjà retiré. GitHub, la partie GitHub est fermée, etc. Enfin, voilà, c'est terminé. Et donc 2,4 millions hein, de dollars, c'est ça qu'ils acceptent de payer.
Oui, tout à fait.
Quand même, une petite somme pour eux. Et ils ont dû se dire, il vaut mieux qu'on paye ça parce que ça nous coûterait bien plus cher. Et au passage, petit message très personnel, Cassim, je ne te dis pas merci pour Balatro, j'espère que je le prononce bien, que j'ai découvert en t'écoutant dans l'épisode du rendez-vous jeu où tu remplaçais Patrick, parce que bah, voilà, j'ai été curieux, je me suis fait avoir par la hype. Je l'ai installé et depuis, c'est assez maladif de se rendre compte à quel point, quand j'ai pas de temps, je me dis « Ouais, mais j'ai quand même bien un quart d'heure pour lancer une partie. Qu'est-ce que c'est horrible !» Et ce qui me fascine derrière, c'est les mêmes choses qui me fascinent quand je me suis plongé dans Fortnite. J'ai vu mes enfants qui se sont appropriés Fortnite. C'est d'essayer de comprendre les petites mécaniques et les petits ressorts qui amènent à cette addiction. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Balatro est un jeu qui est dispo sur Mac maintenant, mais dispo évidemment sur PC. Il est dispo
sur console. Alors, il est sur console. Alors, pour la petite
pas
histoire,
la Switch.
Il y a eu un petit fait d'actualité. Si, il est disponible sur la Switch.
Ah, ok.
Mais, il est, mais en raison de ce que
avec
tu
Yuzu.
Non, mais en raison de ce que tu t'apprêtes à expliquer. Ouais. Il s'est fait balancer en PEGI 18 alors que c'est censé être un PEGI 3 et l'éditeur se bat pour être capable de le commercialiser en PEGI 3 parce que c'est absolument pas un jeu d'argent, il a absolument aucune raison d'être un PEGI 18, mais à cause de son apparence, il y a eu dans la nuit une erreur de qualification et du coup il s'est fait virer de l'eShop parce que jeu plus 18.
D'accord, voilà. Ok. Et donc là actuellement, juste pour comprendre, il est accessible
Il est accessible sur toutes les consoles quand même et sur PC. Et sur Nintendo Switch, je pense qu'il est encore accessible, mais qu'il faut réussir à genre passer les filtres ou quelque chose comme ça.
Ok, d'accord.
Mais normalement, il est censé... Mais ouais, c'est un peu compliqué en ce moment, Balatro, sur Switch. Mais normalement, il devrait revenir. Il est, techniquement parlant, il est prêt et tout. Hein. Et il était disponible pendant les premiers jours. C'est juste cette problématique de classement, là.
Pour le décrire en deux mots, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ça, en fait, c'est assez compliqué de le décrire. Et évidemment, il vaut mieux l'expérimenter, le tester. Mais il faut s'imaginer que c'est un roguelike à base de poker. Évidemment, quand on dit ça, moi, spontanément, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment est-ce qu'on peut aimer ça? Et effectivement, les mécaniques de main du poker à composer sont hyper intéressantes avec les défis qui sont associés, mais surtout le côté deck building, hein, dans le sens où on achète des cartes, on peut faire évoluer ses cartes pendant toute la partie qu'on a en cours. Il y a quelque chose d'extrêmement grisant, mais vraiment toutes les mécaniques psychologiques qui sont derrière le jeu me fascinent et j'ai hâte de voir toutes les vidéos d'experts en psychologie et en addiction sur les comportements qui vont sortir sur ce jeu.
C'est impossible de ne pas ressentir de l'excitation quand ton score s'enflamme sur le côté gauche de l'écran et que tu...
Carrément.
Voilà.
Au point où, et alors c'est ça qui est assez génial, c'est qu'au début, les premières fois, tu testes et tu t'amuses à calculer un peu en gros combien tu vas gagner. Puis à la fin, quand tu as un certain nombre de jokers qui multiplient les trucs de manière hyper puissante, t'es estomaqué, mais sans savoir évidemment exactement combien tu vas gagner. C'est absolument génial. Alors, je ne sais pas si ça t'est arrivé, je terminerai là-dessus. Je joue sur donc Steam Deck. Et donc, tu as la touche X pour valider, enfin X... oui, je crois que c'est X pour valider ta main et passer à la suite. Et Y, c'est pour la défausse. Le nombre de fois, c'est pas arrivé trop fois, hein, le nombre de fois où j'ai défaussé ma main alors que c'était une main de ouf, j'en ai été mais dégoûté. Voilà. Si vous ressentez cette même émotion que moi, je pense que vous aurez compris comment ça marche.
J'ai joué sur PC, mais alors j'ai vu des streamers jouer sur PC et confondre les deux boutons gauche, enfin du coup qui est à gauche.
Mais c'est horrible! C'est horrible. Oui, je vais changer les touches d'ailleurs parce que je peux pas continuer comme ça. Bon, voilà. Donc pas merci et merci en même temps. Et quand même aussi, Maxi, merci pour avoir répondu présent à mon invitation, Kassim, pour remplacer Guillaume Pogdiaspala, l'irremplaçable Guillaume Pogdiaspala, forcément que vous retrouverez la semaine prochaine dans ta café. Mais c'était un immense plaisir de te retrouver pour cet épisode de podcast. Il est grand temps, Kassim, qu'on se prête à l'exercice traditionnel de conclusion de tout bon podcast qui se respecte, de nous dire où on peut te retrouver.
Écoute, déjà, j'ai envie de te remercier pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir participer à ce podcast. Ah. Et puis, tu sais qui est le podcast qui m'a vu naître comme journaliste. Alors, tu sais.
Mais oui, mais tu sais que j'en suis encore ému.
Oh, voilà, donc
je raconte toujours pas l'histoire aux auditeurs. Mais...
Je réponds forcément toujours présent. Voilà. Ah. mais donc oui, où on peut me retrouver, on peut me retrouver justement sur frandroid.com où j'écris plein d'articles et où je suis responsable de la couverture de l'actualité désormais et on peut me retrouver aussi sur @notcassim notcassim un peu partout sur tous les réseaux sociaux. J'ai à peu près réussi à récupérer l'identifiant partout. D'ailleurs, un jour, je raconterai, il faut toujours que j'écrive un article pour raconter comment j'ai réussi à récupérer l'identifiant sur Instagram. Ça a été très compliqué dans la mesure où Instagram a très peu d'humains. Il n'y a pas de service client chez Instagram, donc c'est très, très compliqué.
Fasses de la médiatisation et que tu dépenses beaucoup d'argent. Là, tu as des contacts.
Voilà, mais sinon, en tant que particulier, tu n'as pas vraiment de contacts. J'ai dû réussir, et c'est grâce au RGPD et à la protection européenne que j'ai réussi à obtenir l'identifiant que j'avais perdu il y a longtemps. Bref, je vais rentrer dans
excellent.
Un article.
Mais cela dit, même un article de... Parce que donc, tu as changé de nom de famille et le dispositif « Je change de nom de famille, quels sont les impacts dans le monde de la tech ?» ferait, je pense, un très bon article.
Oui, faut que je...
Il est dans tes brouillons.
Tout à fait. Mais il faudrait pour ça que d'abord que l'État français change mes papiers correctement.
Ah oui, ok,
au bout de
d'accord.
4 mois, mais ce sera fait...
Très chouette, c'est une belle initiative. Merci Kassim, merci infiniment d'avoir répondu présent. Vous me retrouvez derrière le pseudo qui n'en est pas un, Guillaume Vendée, sur à peu près tous les réseaux sociaux à peu près connus par le grand public aujourd'hui. Et surtout, évidemment, je ne vous rappelle pas, ce serait trop long, mais je ne vous rappelle pas que vous pouvez commenter les épisodes sur techcafé.fr. Je ne vous rappelle pas que vous pouvez déposer des avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict ou même des étoiles sur Spotify. Et je vous rappelle encore moins que vous êtes les bienvenus sur patreon.com/techcafé si vous souhaitez financer, ne serait-ce que durant une période limitée, le podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et moi, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao.